Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et à la une de ce samedi 26 octobre 2019 en Australie, il est désormais interdit de monter sur le rocher le plus connu et le plus sacré du pays, Uluru. Et puis, un 36e vendredi de manifestation en Algérie, les protestataires veulent faire entendre leur voix pour empêcher le déroulement de l'élection présidentielle qui est prévue le 12 décembre prochain. Enfin, dans l'actualité française, suite et fin du voyage d'Emmanuel Macron sur l'île de la Réunion et baisse du chômage en France. À 17h30, aujourd'hui, il sera totalement interdit de monter sur le rocher le plus connu et le plus sacré d'Australie, Uluru. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées hier pour gravir une ultime fois le lieu sacré. Une décision qui a été longuement attendue. Cela fait des années que la tribu aborigène locale, celle des Anangu, se bat pour l'interdiction de l'ascension d'Uluru. Plus d'une décennie que les touristes gravissent ce rocher et il en faudra plus d'une centaine pour effacer les traces de pas causées par les marches répétées. Le ministre des Affaires aborigènes Ken Wyatt a déclaré à la ABC qu'il était déçu par le nombre de personnes qui se dépêchaient de grimper le rocher avant que l'interdiction ne soit prise. On l'écoute.
I understand there are people who want about to put it on their bucket list. It would be equivalent to having a rush of people climbing over the Australian War Memorial, if I can be so brazen in that regard, because our sacred objects, community by community, are absolutely important in the story and the history of that nation of people.
Et puis le directeur général du National Native Title Council, Jamie Lowy, a déclaré qu'il espérait que l'interdiction ouvrirait davantage de dialogue national sur les questions aborigènes. On l'écoute.
It's a feeling of relief. It's a feeling of kind of progress, a feeling of reconciliation. Because it's got such an enormous public profile, I think it's a real kind of, you know, it's an education opportunity. So I just hope that, you know, within our classrooms and around our dining room table, that we're actually getting the message right.
Et puis la Nouvelle-Galles du Sud est confrontée à l'un des jours les plus dangereux de la saison des feux de brousse, avec 7 interdictions totales de faire des feux dans la région, alors que des conditions sèches et chaudes menacent de provoquer d'autres incendies dans l'État. Plus de 50 incendies en Nouvelle-Galles du Sud ont été déclarés hier après-midi, dont la moitié n'était pas maîtrisée. Et puis, autre information, en Australie, les autorités sanitaires ont indiqué que l'État d'Australie occidentale, Western Australia, connaissait la pire épidémie de rougeole depuis 2 décennies. 27 cas ont été confirmés depuis la mi-septembre. Et puis l'information à l'étranger, il n'y aura pas de vote. Voilà ce que l'on pouvait lire sur l'une des pancartes brandies par les manifestants hier à Alger. Dans leur ligne de mire, l'élection présidentielle qui est prévue le 12 décembre prochain en Algérie. Élection destinée à élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, mais élection qui est rejetée par les protestataires qui réclament un changement en profondeur du système. Alors, c'était le 36e vendredi d'immobilisation et il intervenait à la veille du délai de dépôt des candidatures. On écoute le reportage RFI dans la capitale algérienne, signé Leïla Berato.
Drapeau enroulé autour de la taille, Mourad, 70 ans, ancien cheminot, brandit une pancarte contre le prochain scrutin présidentiel.
Tous les candidats qui se sont inscrits pour le poste de président, aucun d'eux n'a de dignité. Le peuple algérien refuse ces élections de la honte. Je dis bien de la honte.
Dans le cortège, les slogans critiquent tour à tour le chef d'état-major, le président par intérim et les forces de l'ordre. La foule scande qu'elle n'ira pas voter.
Je voterai sur les gens que nous-mêmes, le Irak choisit. Je voterai pas sur les gens que le gouvernement choisit. Ils veulent nous imposer les hommes à eux. Et nous, on n'est pas prêts à voter pour eux.
Et si l'élection a lieu quand même, Fouzia, 56 ans, cadre dans une entreprise pétrolière, affirme qu'elle continuera à manifester.
On ne reconnaîtra pas le président qui sera élu, parce qu'on sait pertinemment que le taux d'électeurs va être insignifiant. De toute façon, on ne reconnaîtra pas, parce que de toute façon, il y a déjà de la fraude, etc.
Si deux candidats ont déjà déposé leur dossier, les autres ont préféré attendre ce samedi, le dernier jour donc, pour confirmer ou non leur candidature.
Et puis, une juge américaine a autorisé le comité de la Chambre des représentants à accéder à des informations qui avaient été dissimulées dans le rapport de l'ancien conseiller spécial Robert Mueller sur son enquête sur l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine de 2016. La juge Beryl Howell à Washington a déclaré que le comité avait davantage besoin de divulguer les documents, je cite, que de maintenir le secret. Et cette décision est une victoire majeure pour les députés démocrates de la Chambre qui ont cherché à avoir accès aux documents dans le cadre d'une procédure de destitution. On écoute le président Trump qui a exprimé sa déception.
So this has been going on since before I got elected. And people are angry about it. And you know who's angry about it? The Republican Party is angry about it. Because this isn't a takedown of the president, this is a takedown of the Republican Party. And frankly, the Democrats should be ashamed of themselves.
Suite et fin du voyage d'Emmanuel Macron sur l'île de la Réunion, deux jours pendant lesquels le chef de l'État a tenté de convaincre les Réunionnais qu'il ne les oublie pas. Emmanuel Macron repart de la Réunion après des journées intenses au contact d'une population qui attend des avancées concrètes sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Le président a essayé de déminer, mais il reste encore beaucoup à faire. Analyse de l'envoyé spécial Valérie Gasse à la Réunion sur RFI.
La dernière séquence du déplacement d'Emmanuel Macron à la Réunion aura été la plus apaisée. Sur la plage de Grand-Anse, le président de la République s'est offert un dernier bain de foule en participant à un pique-nique pays. Entre les tables remplies de produits locaux, Emmanuel Macron a multiplié les selfies avec les participants invités, qui par la préfecture, qui par le département, un public paisible. Rien à voir avec les violences de la nuit et les échanges parfois tendus dans le quartier des Camélias qui lui ont permis la veille de se rendre compte notamment d'une chose, le niveau de défiance de la population vis-à-vis des élus rendus responsables de la situation économique et sociale. Ce déplacement lui a donc donné la possibilité de prendre le pouls d'un territoire où la pauvreté fait des ravages et c'était bien là l'objectif de ce séjour. Emmanuel Macron voulait ainsi renouer le lien comme il l'avait fait à Mayotte, un effort significatif de la manière dont il veut montrer qu'il mène l'acte 2 de son quinquennat en étant plus à l'écoute et en essayant d'apporter des réponses aux revendications plus qu'en imposant des réformes. Emmanuel Macron s'en retourne à Paris en ayant constaté qu'il lui reste beaucoup à faire avant les prochaines échéances, les municipales de mars prochain et surtout bien sûr la présidentielle de 2022.
Et le président français qui pourra quand même se consoler pour son retour en métropole avec une bonne nouvelle sur le front du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé au troisième trimestre 2019. Une baisse de 0,9%, toutes catégories confondues. Pour cette même période, Pôle emploi comptabilise en France 5 836 000 chômeurs. Les précisions de Myriam Werber.
C'est 52 100 personnes de moins par rapport à fin juin. Et sur un an, le taux de chômage recule de 2%. Une évolution qui se manifeste sur toutes les tranches d'âge, sauf les jeunes. Les moins de 25 ans sont un peu plus nombreux à rechercher un emploi, plus 0,7%. En revanche, le taux de chômage des seniors a reculé de 0,3% au troisième trimestre. Quant aux chômeurs de longue durée, leur nombre baisse également. Autre fait marquant, le nombre de personnes travaillant occasionnellement diminue légèrement. Malgré les incertitudes liées au Brexit et les tensions commerciales mondiales, le marché de l'emploi s'est légèrement amélioré, avec notamment une hausse des contrats plus longs. Cette embellie sur le front du chômage devrait se poursuivre sur la fin de l'année, car à compter du 1er novembre prochain, la réforme controversée sur l'assurance chômage entre en vigueur et va durcir les règles. Il faudra travailler davantage pour être indemnisé.
Et puis, autre information, en France, après des années de débats, le cannabis thérapeutique va être expérimenté. Objectif, soulager les douleurs des patients atteints de maladies lourdes et incurables. Hier, les députés ont donné le feu vert donc à une période de test de 2 ans. Les malades attendaient cette autorisation depuis longtemps. Mais attention, l'usage du cannabis thérapeutique sera très encadré, Pierre-Olivier.
Concrètement, cette expérimentation concernera environ 3000 personnes en France. Des patients souffrant de maladies graves comme certaines formes d'épilepsie, de douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques ou encore pour ceux qui subissent de violents effets secondaires lors de leur chimiothérapie. Mais attention, il ne s'agit pas pour autant de prescrire des joints sur ordonnance. D'abord, une prescription initiale sera effectuée par un médecin spécialiste, un neurologue ou un médecin de la douleur par exemple. Ce professionnel pourra choisir entre deux principes actifs ou les mélanger. Le tétrahydrocannabinol, plus connu sous le nom de THC aux effets psychoactifs, ou alors le cannabidiol, le CBD, qui entraîne plutôt une relaxation musculaire. Les patients devront ensuite aller se fournir d'abord en pharmacie hospitalière, puis pourront renouveler leur traitement en pharmacie de ville. Enfin, le cannabis thérapeutique ne se fumera pas, il prendra la forme d'huile, de fleurs séchées ou encore de tisane. L'expérimentation doit commencer au premier semestre 2020. Si elle s'avère concluante, il reviendra ensuite au gouvernement de décider d'une éventuelle généralisation du cannabis thérapeutique en France.
En sport rapidement et au tennis, le numéro 1 australien Alex de Minaur s'est qualifié pour les demi-finales du Swiss Indoors afin de poursuivre son excellent parcours de la saison 2019. De Minaur, qui s'assure le 22e rang au classement mondial la semaine prochaine, a battu l'Allemand Jan-Lennard Struff 6-4, 7-6, 7-4 et s'octroie une demi-finale contre le géant américain Riley Opelka. Un coup d'œil sur la météo de ce samedi 26 octobre, du soleil et 28 degrés à Perth, quelques averses attendues avec 19 degrés à Adélaïde, de la pluie 17 degrés pour Melbourne, un temps pluvieux également et 16 degrés pour Hobart en Tasmanie, du vent et c'est nuageux 19 degrés pour Canberra, plutôt ensoleillé 27 degrés pour Wollongong, ensoleillé également 32 degrés pour Sydney, du soleil 34 degrés pour Newcastle, conditions similaires avec 30 degrés pour Brisbane, partiellement nuageux 30 degrés pour Cairns et enfin de la pluie possiblement attendue mais 32 degrés pour Darwin. Et enfin en bourse, aujourd'hui avec un dollar australien, vous avez 0,66 US dollars, 0,58 euros et 0,51 livres sterling. Un point sur l'actualité de ce samedi 26 octobre 2019. Donc en Australie, il est désormais interdit de monter sur le rocher le plus connu et le plus sacré du pays, Uluru. Et puis, un 36e vendredi de manifestation en Algérie, les protestataires veulent faire entendre leur voix pour empêcher le déroulement de l'élection présidentielle qui est prévue le 12 décembre prochain. Enfin, dans l'actualité française, suite et fin du voyage d'Emmanuel Macron sur l'île de la Réunion et baisse du chômage en France.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.